Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est RTL Soir et c'est parti jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match comme chaque samedi avec Christian Olivier. À la une ce soir, une scène d'horreur en plein Paris et des questions. Le corps d'une jeune ado de 12 ans disparue hier à sa sortie du collège a été retrouvé dans la soirée dans une malle plastique devant chez elle. 4 personnes sont en garde à vue, les infos d'RTL dans un instant. Une très légère amélioration sur le front des stations-service. 27,3% des stations sont en difficulté contre 28,5% hier et 29,2% la veille. C'est notamment le résultat des réquisitions. Globalement, la galère des automobilistes continue, mais parfois il y a du mieux, nous le verrons dans les Hauts-de-France. Côté raffinerie Total Energy, la grève continue. À Donges, près de Saint-Nazaire, elle a été prolongée jusqu'à mercredi. L'idée serait de faire la jonction avec la journée de mobilisation et de grève de mardi. Les hommages à Samuel Paty à la veille du 2e anniversaire de son assassinat terroriste. La remise du premier prix Samuel Paty a eu lieu tout à l'heure à la Sorbonne en présence du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, et de la sœur de l'enseignant martyr. Le rassemblement organisé par Éric Zemmour, lui, n'a réuni que quelques centaines de personnes ce matin. L'ex-candidat à la présidentielle a dénoncé un francocide. Demain, la grande marche de la NUPES à Paris contre la vie chère et l'inaction climatique. Une grande incertitude, la mobilisation, notamment, évidemment, en raison de la pénurie d'essence. Dans ce journal également, les dernières nouvelles d'Alain Delon par son fils Anthony. C'est un rock, dit-il, et de toute façon, il est immortel grâce à ses films, un document RTL, vous l'entendrez. En sport, à l'instant, un deuxième titre mondial pour la France aux mondiaux de cyclisme sur piste. Marie-Divine Coumet a obtenu l'or sur le 500 mètres. En rugby féminin, à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, une défaite encourageante pour les Bleus ce matin face à l'Angleterre. Le football, la 11e journée de Ligue 1 depuis 17h. Lorient, qui est deuxième au classement, on le rappelle. Lorient affronte Reims. On en est où, Philippe Audouin?
C'est la mi-temps, Vincent, 0-0. Très peu d'occasions après une première période relativement terne.
Merci, Philippe. On vous retrouve dans 20 minutes à la fin de ce journal. Ce soir à 21h, ce sera Lens-Montpellier à suivre dans RTL Foot. Le quintet d'Auteuil, 12, 11, 14, 16 et 3. Et puis le temps, bonsoir Valérie Quintin. Demain va marquer le début d'une vague de douceur partout en France.
Bonsoir Vincent, oui, avec un temps ensoleillé en plus sur toute la moitié sud du pays, excepté tout de même dans le golfe du Lion. Là, il va falloir compter sur quelques averses à tout moment de la journée. La moitié nord va également renouer avec quelques belles éclaircies. Il y aura malgré tout des averses encore assez fréquentes de la Bretagne jusqu'aux Ardennes. Côté température, les minimales seront stationnaires. Elles iront de 10 à 18 degrés de la Bretagne jusqu'au midi toulousain, comptez 13 degrés à Colmar, à Paris ou à Mâcon au réveil. La hausse va intervenir dans la journée avec une fourchette de température de 17 à 30 degrés. Les 30 degrés seront pour Pau, les 17 pour Brest. Comptez 18 degrés à Dunkerque, 20 degrés à Paris, 23 degrés à Saint-Etienne, 26 à Marseille et Ajaccio, 27 degrés pour Toulouse et 28 degrés à Bordeaux.
Merci Valérie. 27 à Toulouse, 28 à Bordeaux. Et pour illustrer justement cette douceur qui va encore s'accroître dans le sud-ouest, eh bien écoutez Christiane au micro de Valentin Larquier, est partie de Villefranche-sur-Saône. Elle est arrivée tout à l'heure en gare de Toulouse avec un gros pull.
Chez nous, il ne faisait pas très beau. Donc j'ai pris le manteau, j'ai pris le pull. Et pourtant ce matin à la télé, j'ai entendu que dans le sud-ouest, il allait faire une température de 30 degrés. Mais bon, je n'y croyais pas. J'ai rangé tous mes vêtements d'été, j'ai sorti tous mes vêtements d'hiver. Puis j'arrive ici, c'est la canicule.
Est-ce que ça vous inquiète aussi de voir qu'il fait aussi chaud un 15 octobre?
Oui, moi je m'inquiète surtout pour la nature. C'est plutôt étrange cette température à cette saison.
RTL Soir avec Vincent Parizeau.
C'est donc une scène d'horreur qu'ont découvert des policiers hier soir à Paris dans le 19e arrondissement. Le corps d'une jeune adolescente enfermée dans une malle en plastique. Elle avait disparu dans l'après-midi après sa sortie du collège. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
4 personnes sont en garde à vue.
Oui, le corps recroquevillé de la fillette a été retrouvé dans une grosse malle dans une des cours intérieures en bas de l'immeuble de la famille. Ses pieds et mains liés, une plaie très importante à la gorge et des signes, des chiffres placés sur son corps de façon tout à fait mystérieuse. Ce que l'on sait, c'est que les parents de l'adolescente ont fait très vite un signalement à la police hier après-midi. La fillette devait revenir du collège à 15h, elle est introuvable. Le père de famille est gardien d'immeuble, il a donc accès à la vidéosurveillance et c'est ainsi qu'il se rend compte que sa fille apparaît bien en bas dans le hall de l'immeuble avant de disparaître. Et elle n'est pas seule. Une jeune femme d'une vingtaine d'années l'accompagne. Toute la nuit, la brigade criminelle a travaillé sans relâche. Et c'est notamment grâce à ces images qu'ils ont réussi à remonter jusqu'à 4 personnes actuellement en garde à vue, dont une jeune femme aperçue en train de tirer une grosse malle.
Cindy Hubert. Et puis toujours à Paris, 2 policiers sont toujours en garde à vue après un nouveau refus d'obtempérer qui a viré au drame hier soir. Dans le 12e arrondissement de Paris, cours de Vincennes, ils ont tiré en direction d'un véhicule qui fonçait vers eux, selon leur déclaration, pour tenter d'échapper au contrôle. Le conducteur a été tué, les passagers, au moins 2, ont pris la fuite. En cas de tir par des policiers, de toute façon, l'IGPN est systématiquement saisi. Et puis une seconde enquête, évidemment, pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, a été ouverte et menée par la police judiciaire. Sachez aussi que des recherches ont été lancées en Normandie pour tenter de retrouver 9 hommes qui se sont évadés hier soir du centre de rétention administrative qui est installé à Oissel, dans les locaux d'une école de police. Les 9 retenus se sont évadés vers 22h hier soir en brisant un mur. Par endroits, la situation s'améliore, mais peut aussi se dégrader. Difficile de présenter ce soir, évidemment, un tableau réaliste de la situation à la pompe en France. Le chiffre global dévoilé cet après-midi est de 27,3% des stations à sec d'au moins un carburant. Hier, c'était 28,5. La veille, c'était 29,2. Donc un léger mieux qui serait l'effet direct des réquisitions. L'équivalent de 20 000 pleins de voitures ont pu être ainsi livrés dans les Hauts-de-France. De quoi réduire le nombre de stations en pénurie. Mais je vous le disais, la situation est très variable. Alors ce soir, faisons plutôt un comparatif. Samedi dernier, dans ce journal, à cette heure-ci, Antoine Decarne nous appelait d'une station de Marc-en-Barœul près de Lille et voilà ce qu'il nous disait.
Le panneau lumineux est éteint, mais les automobilistes affluent tout de même.
La pompe est actuellement indisponible. Ça marche pas. On va pas pouvoir aller travailler. Et je fais un petit peu toutes les pompes, mais toujours en rupture.
Et ici ce matin, la file d'attente était longue d'une heure. Tout est parti très rapidement.
Voilà, ça c'était samedi dernier. Bonsoir Antoine Decarne.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Vous êtes donc retourné dans cette même station une semaine après. Et alors ?
Et alors, quand la station était complètement fermée il y a une semaine, à la même heure aujourd'hui, la station est ouverte, c'est déjà positif. Alors ici, il ne reste plus que du gasoil, mais il n'y a pas du tout d'attente. Francesca en a profité.
Il n'y a personne ici, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. J'espère que ça va continuer, que tout le monde pourra effectivement, sans en prendre trop, juste pour aller travailler comme il faut. Ouais. J'ai pas eu le temps de chercher, donc c'est parfait.
La métropole lilloise était l'un des endroits les plus touchés par la pénurie. Désormais, des stations Total ou Esso sont à nouveau ouvertes. La situation s'est apaisée.
Gazole, pour l'instant, il y a plusieurs stations qui en ont, donc tant que ça continue, pour l'instant, ça marche. À voir comment ça évolue.
En une semaine, on est passé de 50% à 22% de stations en difficulté dans les Hauts-de-France. Depuis jeudi, et les premières réquisitions du dépôt pétrolier Total de Dunkerque, ça va mieux. À l'extérieur de la métropole, on est à 30 km de Lille, à Bailleul. Thibault fait son plein d'essence, seul à la station.
La semaine dernière, c'était beaucoup plus difficile, mais là maintenant, tout va bien, c'est facile. On n'a pas attendu, tout va bien.
Ouais, c'est plus un sujet d'inquiétude, quasi.
Non.
Bon, cette impression reste encore à nuancer toutefois. Le département de l'Oise, proche de l'Île-de-France par exemple, est toujours en difficulté avec des taux de rupture à la pompe toujours proches de 40%.
Merci beaucoup. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux dans cette station de Marc-en-Barœul. Merci Antoine Decarne. Sur le front des raffineries, la grève est terminée, je vous rappelle, chez ExxonMobil, mais le retour à une situation normale dans les 2 raffineries de ce groupe, dont la production était bloquée depuis fin septembre, va prendre maintenant 2 à 3 semaines. Voilà ce que dit la direction. Pour toutes les autres, c'est-à-dire les 5 raffineries Total Énergie, eh bien la grève a été reconduite malgré la signature d'un accord majoritaire sur les salaires avec la CFDT et la CFE-GGC. Les salariés grévistes du groupe ont reconduit leur mouvement avec en tête l'idée de faire la jonction avec la journée de mobilisation interprofessionnelle de mardi prochain. Alors concrètement, comment cela se traduit-il sur le terrain, par exemple à la raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire, Nicolas Bobby?
Pendant la grève, la fourniture du précieux carburant a continué, mais à toute petite dose, en utilisant une partie de l'oléoduc Donges-Melun-Metz, un symbole fort pour Fabien Privé-Saint-Lanne, le délégué CGT.
Nous avons approvisionné Verne, le dépôt de Rennes, en gazoil et en essence. Concrètement, un pipeline, c'est un gros tuyau qui va d'un point A à un point B avec des vannes, des robinets que nous pouvons ouvrir ou fermer. Nous avons ouvert ces robinets pour détendre l'atmosphère. Ça a commencé ce matin et ça se terminera demain soir.
consultés ce midi au moment de la relève, les agents d'exploitation ont décidé la poursuite du mouvement.
On rentre pour la sécurité des unités, en fait. Les unités sont en fonctionnement, il faut qu'on assure la sécurité, mais on sort pas de camion et on approvisionne pas les stations, en fait.
Il y a 70% de grévistes et le mouvement continue. Et je vous laisse, que vous j'aille travailler.
Pas une seconde à perdre, on ne plaisante pas avec la sécurité. Maintenant, les CGTistes attendent la journée de manifestation prévue mardi.
Nicolas Bobby, reportage à la raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire. Il est 18h10. On va donc marquer une courte pause et puis dans un instant, aller à la Sorbonne où l'on a remis aujourd'hui pour la première fois le prix Samuel Paty. Et cela en présence de la sœur de l'enseignant martyr.
RTL Soir.
RTL Soir avec Vincent Parisot.
Demain, cela fera exactement 2 ans que Samuel Paty, professeur d'histoire géo, a été assassiné, décapité près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine par un jeune russe d'origine tchétchène, et cela pour avoir montré en cours des caricatures de Mahomet. L'assaillant, je vous le rappelle, avait été tué. L'enquête est maintenant terminée et 14 personnes, dont plusieurs collégiens, sont mises en examen. Parallèlement, les hommages dans les établissements scolaires avec une minute de silence ont débuté hier. Ils vont se poursuivre jusqu'à lundi. Et cet après-midi, à la Sorbonne, la sœur de Samuel Paty était présente aux côtés du ministre de l'Éducation pour la remise du tout premier prix Samuel Paty. Et vous y étiez, Valentin Boissé.
Oui, un prix remis en présence de Michaël, la sœur de Samuel Paty. Lorsqu'elle prend la parole, au premier rang, il y a la dessinatrice Coco, rescapée de la tuerie de Charlie Hebdo. Elle dessine la silhouette de Michaël Paty sur son carnet. À l'estrade, elle annonce vouloir terminer le cours que son frère n'a pas pu finir.
On a le droit de ne pas aimer les caricatures et de dire. Dans un état de droit, personne n'a le droit de menacer ou de tuer. La laïcité est le respect de toutes les religions.
La salle se lève pour l'ovationner. Devant elle, il y a les professeurs dont les classes ont remporté des prix dans le cadre de ce concours.
Elle a expliqué et remis dans le contexte qui devait l'être le travail de Samuel Paty, qui en fait a fait un cours qui s'est fait dans le respect de la sensibilité de ses élèves. Et un cours qui appelait à leur réflexion.
Les lauréats présentent leur production, un balado sur la laïcité, un poème en hommage à Samuel Paty joué en langue des signes.
Le jour où on a appris ça, le professeur de français est rentré en pleurant, on a dû arrêter le cours. Et à ce moment-là, je comprenais pas trop, vu que c'était encore nouveau. Mais maintenant, j'ai compris que tous les profs ont été touchés, et tous les élèves, d'ailleurs, tout le monde, toute la France a pu être touchée par ce qui s'est passé.
Tout comme l'hommage il y a 2 ans, dans ce même bâtiment, la cérémonie se conclut par la musique préférée de Samuel Paty, One, du groupe U2.
Reportage de Valentin Boissé, donc à la Sorbonne, pour la première remise de ce prix Samuel Paty. Notez que le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, sera demain l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Et puis je vous signale, je vous conseille le podcast Focus, mis en ligne hier par Marion Calais et la rédaction d'RTL. École, la laïcité est-elle en danger? Vous le trouvez sur l'appli RTL et sur le site RTL.fr. Face à la Sorbonne, justement, mais ce matin, Éric Zemmour lui a tenu un rassemblement hommage à Samuel Paty. Seules quelques centaines de personnes étaient venues écouter le président de Reconquête qui a parlé d'un francocide, je le cite, à savoir la mort d'un Français parce qu'il était Français. LFI, la France Insoumise, espère mobiliser demain à Paris à la fois les partis de gauche, les syndicats et les associations contre Emmanuel Macron, contre le gouvernement. Une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Mais toutes les revendications devraient pouvoir s'exprimer et les filles espèrent plusieurs dizaines de milliers de participants. L'objectif est affiché, faire le plein malgré la pénurie de carburant, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, le slogan « Marche contre la vie chère et l'inaction climatique » a été âprement discuté au sein de la NUP. Mais Jean-Luc Mélenchon l'a dit, chacun pourra venir avec sa pancarte. Façon de rassembler le plus de monde possible. Les organisateurs affirment qu'ils ont agrégé plus de 80 mouvements politiques ou associations. Et si les grandes centrales syndicales boudent, certaines de leurs fédérations locales seront là. Les marcheurs partiront à 14h de la place de la Nation pour arriver place de la Bastille. Il n'y aura pas de discours en fin de parcours comme dans les meetings, mais de nombreux participants prendront la parole depuis un camion situé à l'avant du cortège, avec des sonos répartis tout au long du parcours pour que personne n'en perde une miette. Parmi les incertitudes, les pénuries de carburant vont-elles empêcher la centaine de cars affrétés et les voitures particulières de venir jusqu'à Paris.
Marie-Bénédicte Allaire, évidemment, on suivra en détail cette manifestation. Demain, on vous en parlera évidemment dans le journal et dans le MacPol à 18h30. En Turquie, les secours ont mis fin à leur recherche cet après-midi dans la mine de charbon d'Amasra, au nord-ouest du pays, après la découverte du corps sans vie du dernier mineur qui manquait à l'appel. Le bilan de ce coup de grisou survenu hier soir est donc de 41 morts et 28 blessés. Alain Delon, qui fêtera ses 87 ans le mois prochain, va bien, et cela 3 ans après son AVC. C'est son fils Anthony qui l'affirme sur RTL. Document que vous allez pouvoir écouter maintenant. Anthony Delon est venu hier dédicacer son livre « Entre chien et loup » paru au Cherche Midi, c'était au château de Parnay dans le Maine-et-Loire. Et il a donc donné des nouvelles plutôt rassurantes de son père à Christian Panvert.
Il va, il me fait penser à Gabin un peu. C'est un rock. Il avance.
Vous l'avez plus souvent au téléphone? Vous avez une relation qui a changé depuis ce livre?
Je ne sais pas si elle a changé depuis ce livre. Il y a toujours eu des variations énigmatiques. Et ça continuera comme ça jusqu'au bout, je pense.
Mais la relation est belle.
Quoi qu'il arrive, ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est le vide. Voilà, donc après, toutes ces variations, ces états d'âme, ces fâcheries, ces retrouvailles, c'est pas très grave.
Il sait vous dire je t'aime?
Non, mais par contre, il m'a entendu quand je lui ai dit un jour, je lui ai dit, écoute, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je serai toujours près de toi. Et je lui ai dit que je l'aimais, il m'a dit, mais c'est normal. Je lui mets toi aussi. Évidemment. C'est comme ça, c'est les anciennes générations aussi. Hein. Elles ne parlent pas beaucoup.
Vous vivez dans l'angoisse de l'appel qui vous dira Alain Delon est mort?
D'abord, on ne me dira pas Alain Delon est mort. On me dira papa est mort ou ton père est mort. J'espère que je ne l'apprendrai pas à la radio. Non, je ne vis pas dans cette angoisse-là. La mort, elle fait partie de la vie. Mais il est immortel puisque ses films resteront dans les cinémathèques pour toujours.
Voilà, Anthony Delon avec Christian Panvert, document RTL. Vous le retrouvez évidemment sur RTL.fr et l'appli RTL. Il est presque 18h20, alors marquons une petite pause. Et dans un instant, tout le sport.
RTL.
RTL Soir avec Vincent Parisot.
Le sport donc, et avant de retourner à Lorient pour le foot, sachez que la France a obtenu une deuxième médaille d'or aux Mondiaux de cyclisme sur piste grâce à Marie-Divine Kouamé sur le 500 mètres, c'était cet après-midi. Hier, Mathilde Gros avait déjà décroché l'or en vitesse individuelle. Le rugby féminin, la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande après leur large victoire lors du premier match face à l'Afrique du Sud la semaine dernière. Eh bien, les Françaises se sont inclinées ce matin, mais avec la manière face à la grandissime favorite de la compétition, l'Angleterre, première du classement mondial, score final 13-7. Les Bleus décrochent le point du bonus défensif, malgré cette défaite qui a donc un petit goût de succès. Écoutez l'entraîneur des rugby women françaises, Thomas Darak.
Déçu et très fier de cette équipe. Elle a montré un très beau visage ce soir. Oui, t'es exemplaire sur l'aspect défensif, beaucoup d'engagement, beaucoup de combat. Après, on sait qu'on doit encore un peu plus lâcher. Il y a quelques ballons qu'on n'a pas relancés à la main, qui auraient certainement mis un peu plus la pression sur cette équipe d'Angleterre. Voilà, c'était des matchs qui se jouent à rien. Il y a 2-3 ballons qu'on n'a pas sur certaines conquêtes, à certains moments clés du match. C'est encore le petit détail qui nous manque là pour pouvoir basculer dans une victoire. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revoir cette équipe d'Angleterre en face de nous.
Thomas Darak, l'entraîneur des Bleus sur TF1. Les Bleus qui affronteront les Fidjiennes lors du dernier match de phase de poule samedi prochain. Et puis en top 14 cet après-midi, Toulouse a battu Brive 45-7. Le foot donc avec la 11e journée de Ligue 1 depuis 17h. Lorient, deuxième au classement, affronte Reims. Philippe Audouin, toujours 0-0, mais les Rémois sont à 10, je crois.
Exactement, le coup de théâtre dès la première minute de la deuxième période, Vincent, avec l'expulsion pour un deuxième carton jaune de Lopi côté champenois, alors que les Lorientais sont encore à l'attaque. Ils commencent enfin à pousser, les Lorientais, eux qui ont été en difficulté en première mi-temps et qui ne parviennent pas à développer leur habituel jeu si séduisant. Et c'est même Reims qui a été tout près d'ouvrir le score en première période. Mounetzi qui a eu une belle occasion et qui a raté la cible. Toujours 0-0, donc à 25 minutes de la fin. Mais Lorient est à 11 et on sent que la pression commence à monter.
Merci Philippe, à tout à l'heure. Ce soir, 21h, Lens Montpellier à suivre dans RTL Foot. Et puis en Ligue 2, Saint-Etienne s'enfonce encore un peu plus, battu à Geoffroy Guichard 2-0 par le Paris FC, pourtant réduit à 10. Les Verts sont 18e au classement.
Mon métier, ma passion,
Armel Lévy.
Et chaque samedi, Armel, vous tendez votre micro à des hommes et des femmes qui adorent leur métier. Bonsoir Armel.
Bonsoir.
Et donc on part dans un atelier de poterie au 68 rue Thiers, c'est à Boulogne-Billancourt près de Paris. C'est là que Nolwenn Baillet s'est installée en mars dernier. Alors avant, elle était chef de projet dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, eh bien, elle vous reçoit les mains dans la terre parce qu'elle est artisane potière céramiste.
Là, je suis en train de faire des mini pichets. Donc je vais tourner et ensuite je vais émailler dans une autre couleur.
Et il faut combien de temps pour faire un pichet, par exemple ?
Peu de temps. En fait, c'est pas trop le tournage qui prend du temps, c'est plus le séchage de la pièce. En général, une petite pièce comme ça, ça peut mettre une semaine à sécher quand même. Donc ensuite, je fais une première cuisson à 980 degrés. Et ensuite, je vais cuire à 1250 degrés avec l'émail. Donc en fait, je plonge ma pièce dans un bain d'émail pour pouvoir protéger la pièce et lui donner une petite couleur sympathique. C'est une substance très, assez liquide, un peu crème fraîche, lait, on va dire. Et après, je la mets dans le four.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce contact-là avec la terre ?
La matière, la terre, en fait, elle est très agréable au toucher. Bah, je trouve que pour tourner, on a besoin de calme, en fait. On a besoin quand même d'être un peu concentré. Il y a quelque chose de très méditatif, en fait, en tournant. Puis, en fait, on part d'une boule pour faire une forme. Et je trouve que ça, c'est très satisfaisant.
Qu'est-ce qui fait que le matin, vous réveillez, vous avez envie de venir ici, retrouver votre atelier ?
Oh bah c'est créer, parce que j'adore ça. Et je suis très contente que ça plaise aux particuliers, mais je suis très contente aussi que ça plaise aux revendeurs. Je vends à des boutiques. Et là, ma plus grande fierté, c'est de vendre mes pièces au Japon. Après, on fait plusieurs métiers aussi, en fait, quand on est indépendant. On gère tout. Moi, je gère la partie production, mais je gère également la partie comptabilité, la partie photographie, la partie logistique, mettre les photos sur le site, Instagram, les réseaux sociaux, je réponds aux gens, je donne aussi des cours d'initiation au modelage. En fait, j'aime le fait que dans la journée, il se passe plein de choses, c'est tous les jours différents et on passe par toutes les phases et j'aime trop ça en fait. Donc c'est vraiment une bonne raison de se lever le matin, c'est d'aimer son métier.
Ah, ça fait plaisir à entendre. Reconversion heureuse, celle de Nolwenn Baillet, potière céramiste. Merci Armel.